93, vous écoutez
Faites du bruit
avec Jean-Simon Buis.
Bonsoir tout le monde. Bienvenue à bord. Comment s'est passé votre mercredi? J'espère qu'il a été agréable. Qu'est-ce qui vous attend sur la table ce soir? Et de manger. Je suis en train de... Parce que je découvre un peu... À chaque fois, je pense qu'on peut améliorer notre façon de s'alimenter. Puis attention, je ne vais pas vous faire la morale ici, mais pas du tout. Là, je ne vous dirai pas de ne pas manger un aliment ou un autre. Je vous rappelle que avant hier, on a commandé du PFK un auditeur en ondes, Karen et moi. Donc, on n'est certainement pas là pour vous faire la morale. Mais c'est parce que c'est plus dans l'optique, puis je suis sûr que vous aussi, vous avez ce petit défi-là, de pas avoir faim dans la journée, tu sais, de bien espacer votre nourriture pour pas avoir faim. Fait que là, pendant un bout de temps, je mangeais une espèce de collation à 4h30, là, fait que des crudités avec des noix, tu sais, c'est supposé quand même remplir. Mais là, j'arrivais à 6h et j'étais vraiment affamé. 6h, 6h30, tu sais, puis le souper est pas de suite parce que j'étais avec vous autres jusqu'à 18h30 et ça me fait plaisir de l'être. Mais après ça, ben, j'en ai jusqu'à quoi, à 7h à peu près avant de souper. Puis donc, entre les deux, j'avais très très faim. Fait que ce qui arrivait souvent, que je finissais de vous parler à 18h30. Puis là, ben, je flyais, puis je m'arrêtais au dépanneur le plus proche pour manger, genre, quoi? Un sac de chips, ou, mettons, une barre de chocolat, ou de quoi de vrai... Ben, un sac de fromage squeeze-squeeze, mais tu sais, le gros sac de fromage squeeze-squeeze, tu sais. Parce que quand t'es affamé, là, comme la pub de Snickers, là, t'es pas toi-même quand t'as faim, là. Ben, c'est ça. Moi, je prends n'importe quoi. C'est comme une rage, là, tu sais. Il faut que je bouffe de quoi. Fait que là, depuis que je me fais des petits muffins de maison, puis je tiens à vous le partager, puis je me fais des petits muffins de maison, que je mange ça à 6h avant de vous parler, donc à 5h50, là, hey, là j'ai plus d'énergie, puis je me mange pas de l'intérieur, puis les dépanneurs ont perdu un client. Alors, c'est une bonne affaire de trouver une fréquence qui a du bon sens pour pas avoir trop faim. Donc, vous, qu'est-ce que vous mangez ce soir? Qu'est-ce qui va combler votre appétit à cette soirée? Mercredi soir, tout le temps un peu plus, pas si vous avez remarqué, là, mais les recettes plus plates, en tout cas, moi, les recettes plates, c'est comme lundi, mardi dans ma tête, là. Tu sais, mettons, on fait la liste d'épicerie, ma blonde pis moi, là, je sais pas vous autres, là. Mais, mettons, l'affaire, ça nous tente moins, là, tu sais, parce que ça donne que de quoi en spécial, fait qu'on le fait, là, lundi, mardi, OK? Je me débarrasse de ça lundi, mardi. Déjà, mercredi, monte le calibre une petite affaire, tu sais, un petit quelque chose de plus. Des fois, ça va être un petit take-out, ben, des fois, une petite recette un peu plus courte. Puis là, jeudi, on est quasiment rendu à la fin de semaine, fait que, oui, donc, un petit peu plus. Puis là, ben, vendredi, samedi, dimanche, ben, là, on se gâte. Hein. Je sais pas si vous êtes de même ou aussi, comment vous. Vous y prenez pour diversifier un peu les repas. Hey, côté météo, juste parler un petit peu de ça parce que il y a une belle petite neige encore qui est tombée à Québec. Je pense que parce que là je vais m'avancer, Jean, puis tu garderas ça comme ça les gens pourront me ramasser si j'ai tort. Mais je pense que je risque pas trop en disant qu'on va avoir un Noël blanc. Penses-tu, Jean, que c'est trop tôt pour dire ça? Ouais, t'es d'accord? Ouais, Jean est d'accord. Bon, fait que si Jean est d'accord, je me sens sécure de dire ça. Et je trouve ça super le fun que le 1er décembre, comme ça, je me sens assez confiant pour vous dire que, ouais, Noël risque d'être blanc, puis on sera pas. Parce que, souvenez-vous, les dernières années, t'es arrivé une couple de fois. Hey, on est rendu comme le 8 décembre, le 12 décembre, puis là, ben, c'est gris brun à terre, fait que c'est pas sûr qu'on va avoir un Noël blanc. Tout le temps stressant un peu. Finit tout le temps par neiger quelque part dans le coin du 21 décembre, puis on est correct. Hein? Je pense que vous vous en souvenez tout un peu, là. Mais tu sais, la conversation, là, toute, là, en famille ou en couple, là. Ouais, on va-tu avoir un Noël blanc cette année, là? Ça va-tu tenir? Me semble que Noël, c'est plus magique avec de la neige. On a tous cette petite conversation. Là. Mais là, tu sais, je me promenais un peu à matin, mais je suis sorti quand même de bonne heure pour déneiger les chars. Puis tu sais, je me disais, si la déneigeuse passe, j'aurais sorti les deux voitures, tu sais. Fait que, puis là, je voyais la belle petite neige blanche, puis sur le patio, puis mon chien Socrate qui traite pas trop sur ça, la neige, parce que c'est frette, puis à sa place, je serais pareil. S'il fallait que je sorte aux toilettes dans la neige à tous les matins en me levant, je trouverais ça un peu poche aussi, la neige. Fait que lui, il traite pas bien, mettons qu'il fait ses besoins rapidement. Ben, je voyais la petite neige, puis je me disais, ben, pense qu'on va avoir un Noël blanc. Puis juste le fait d'avoir un Noël blanc, ben ça me met de bonne humeur, honnêtement, d'avoir ce Noël-là, ce Noël blanc-là. Et bon, il y a des gens qui disent, là, bon, vous êtes pire que moi, vous autres, là. C'est parce que c'était moi le grincheux de service, là, qui dit, non, pas de neige avant la semaine de Noël, s'il vous plaît. Non, c'est bien plus le fun, ça. Même si c'est glissé un peu, là, vous avez vos pneus d'hiver, hein? Et oui, on est le 1er décembre. Hein, Jean? Hein? T'as tes pneus d'hiver? Ben oui, il y a ses pneus d'hiver. Ben oui, il y a ses pneus d'hiver. Tout le monde a ses pneus d'hiver, voyons. Tout le monde a ses pneus d'hiver parce qu'on est le 1er décembre. J'espère que vous les avez. Puis il y en a quelques retardataires. Puis ça a de l'air, là, moi, du coup. J'ai des amis garagistes qui m'ont dit, il y a quelques retardataires qui, bon, ils vont échanger dans les prochains jours puis qui espèrent qu'ils se feront pas pogner.
On vous le souhaite aussi. Puis on vous souhaite de vous rendre, évidemment, à la maison, à vos destinations, de manière sécuritaire. Salutations à mes amis qui m'écrivent pour me dire qu'est-ce qu'ils mangent ce soir. Pâté chinois. Parfait, ça fait un job, ça. Deux pâtés chinois. Gratiné au mozzarella pour un, puis un pâté chinois nature pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui se fait une poutine smoke meat maison. Poutine smoke meat maison. C'est bon, ça. C'est bon, smoke meat de l'immédiat à Cap-Rouge. Très bon, ce smoke meat-là. Dans une... Ils vendent ça au IGA, en plus. Je sais pas si tu savais ça, Jean. Ouais, ils vendent le smoke meat de l'immédiat au IGA. Fait que tu peux prendre ça, puis ça dans ta poutine maison. C'est bon, en tabarouette. Kim qui nous dit qu'elle va mieux qu'hier parce qu'elle a fini pour ça fait du bien. Tant mieux. Profite de ta soirée, Kim. Restez là. Au retour, on jase avec peut-être l'auteur de l'heure, honnêtement, Michel Jean, qui est aussi chef d'antenne à TVA. On va jaser de ses récents romans et de son processus de création littéraire. Restez là. On vous revient.
Faites du bruit. De retour dans quelques instants. 93.
Magasinez vos cadeaux sur outdoor.com. Offrez des expériences uniques partout au Québec. Activités palpitantes, escapades féeriques, séances de soins et forfaits gastronomiques. Et avec outdoor.com, vous encouragez les commerçants du Québec. Offrez tout en redonnant à la communauté avec outdoor.com.
Vivez la magie de Noël. Signé Floral et Jouvence. Épatez vos convives avec la plus belle variété de décorations au style unique et le plus grand éventail de sapins naturels et artificiels. Le plus beau magasin de Noël à Québec, c'est Floral et Jouvence. Québec et Lévis.
Frette pas frette, on est là. À la Cordée, on a tout ce qu'il faut pour jouer dehors, beau temps, mauvais temps. Ski, raquettes, crampons, manteau chaud, c'est le temps de vous équiper pour profiter à fond du grand air cet hiver. Pour des conseils plein air, la Cordée, le spécialiste des hivers d'ici.
OK, c'est le concours de mes millionnaires. Si on parle à Julie, elle gagne 1 million.
Oui, allô, c'est moi, Julie.
Oh, désolé, on doit parler à Julie.
Ben oui, c'est moi, Julie, je te dis, c'est moi.
Oh, que c'est dommage. Non, on passe un autre appel, on te laisse un t-shirt.
D'accord, je pense, c'est moi, Julie.
Gorge irritée? Les pastilles Valda, pour un soulagement temporaire. Offerte en pharmacie.
Disponible cette semaine dans votre pharmacie Accès Pharma chez Walmart à 5,97 $ pour le boîtier de 50 pastilles. Nouvelle saveur disponible. Valda soulage les irritations de la gorge depuis 1904.
Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi.
C'est la semaine folle chez Daniel, la source du sport, au Promenade Beauport. Le spécialiste des sports d'équipe. Des rabais incroyables, des prix complètement fous sur presque tout en magasin. Tu jamais vu Daniel, la source du sport.
La source du
Promenade Beauport.
Saviez-vous que le système Freestyle Libre 2 vous permet de voir votre taux de glucose en scannant avec votre téléphone? Il est aussi doté d'alarmes optionnelles qui vous avertissent dès que votre taux de glucose est trop élevé ou trop bas. Visitez monfreestylelibre.ca pour commencer avec une trousse d'essai gratuite. Une nouvelle liberté. Plus de détails à monfreestylelibre.ca. Des conditions s'appliquent. Le système flash de surveillance du glucose Freestyle Libre 2 est indiqué pour mesurer le taux de glucose présent dans le liquide interstitiel des personnes âgées de 4 ans et plus. Toujours lire et suivre les directives de l'étiquette.
Plutôt que de te montrer tous les plats alléchants dans ton quartier, on s'est dit qu'on te le dirait. Poutaille, Rito, Ushi! DoorDash, délicieux et livré. Obtiens 0 $ de frais de livraison sur ta première commande. Des conditions s'appliquent, visite le site pour les détails.
Fan de métal, Judas Priest et la tournée 50 Heavy Metal Years s'arrêtera au Centre Vidéotron le 10 avril 2022. Avec mon invité spécial Queensryche. Billets en vente ce vendredi 10h sur Ticketmaster.ca. Rendez-vous à ne pas manquer pour les plus grands fans de métal. Judas Priest au Centre Vidéotron. Une production Live Nation et Gestev.
Participez à la campagne annuelle de l'Armée du Salut. Donnez généreusement aux bénévoles qui récoltent des dons dans les commerces de la ville. Joignez-vous à l'équipe de bénévoles via l'application Messenger de l'Armée du Salut. L'Armée du Salut vous invite à partager l'esprit des fêtes avec les familles dans le besoin.
Ici Martin Carly, vulgarisateur scientifique. La vaccination des 5 à 11 ans contre la COVID-19 est commencée. En tant que parent, vous vous demandez peut-être si votre enfant recevra le même vaccin que celui pour adultes. Le vaccin utilisé pour les enfants de moins de 12 ans contient une plus petite quantité d'ARN messager, car le système immunitaire des enfants répond mieux que celui des adultes. Et bien que la dose soit plus petite, le vaccin est tout aussi efficace que chez les adultes.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur québec.ca/vaccin jeune. Un message du gouvernement du Québec.
Au 93, vous écoutez... Avec Jean-Simon Buis. Faites du bruit.
Un jour je vais sauter sur un train et disparaître au bout du chemin. Ou peut-être même embarquer sur un radeau. Ceux qui pensent que je vais me noyer, oublient que j'ai appris à nager. Wow, wow.
Pourquoi écouter du Vilain Pingouin alors que je m'apprête à parler à Michel Jean? Ben, c'est parce que Vilain Pingouin, c'est la trame sonore musicale de son dernier roman, Joe Jagger. Il y a des paroles, des chansons de Vilain Pingouin qui ponctuent la trame du livre. Donc, c'est pour ça que j'ai ouvert avec ça. On l'a au bout du fil, Michel Jean, qui est auteur, chef d'antenne à TVA. Bonjour, Michel.
Salut Jean-Simon, salut tout le monde.
Pourquoi Vilain Pingouin, d'abord?
Ben, écoute, honnêtement, c'est un peu un hasard parce que je cherchais un personnage qui serait un poète, mais qui parlera à travers les chansons. C'est un itinérant, donc quelqu'un qui est un peu brisé. Et puis, j'étais dans le tour, puis j'entends la radio Vilain Pingouin qui joue, puis je commence à me dire, wow, les paroles sont vraiment bonnes. Tu sais, on écoute Vilain Pingouin, mais si on commence à écouter les paroles, là, j'ai commencé à écouter, puis je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de chansons avec des paroles qui avaient une profondeur, puis qui correspondaient à ce qu'un personnage comme personnage dans mon roman voudrait dire. Alors, j'ai commencé à piger dans les chansons, puis chaque fois que quand il parle, ben quand il parle, lui, il récite des chansons des Vilains Pingouins, mais qui fit avec la situation. Alors, c'est ça, je pense à la richesse des textes de Rudy Kaya qui fait que ça m'a facilité la chose. Puis j'étais bien content que les gars de Pingouin acceptent qu'on prenne les textes dans le livre.
Oui, c'est ça. La thématique permet un peu de suivre la trame du roman qui traite d'un sujet quand même assez sombre. Dans Joe Jagger, ça commence de façon très dure. C'est différent, par exemple, de Koukoum, du début de Koukoum. Est-ce que c'est différent d'écrire un roman qui commence d'une façon aussi brutale?
Ben oui et non. En fait, pour moi, l'ambiance, c'est pas si important, c'est pas si difficile que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est juste que ça donne une couleur au roman. Dans Koukoum, on suivait à ce moment-là Almanda, qui était mon arrière-grand-mère, qui était peut-être plus vieille. Alors, il fallait que ses réflexions, que son esprit soit en harmonie avec la nature. Dans Joe Jagger, ben, c'est une vie de quelqu'un de brisé. Donc, ça commence avec une scène qui est très violente, qui a un rythme quand même enlevant. Alors, c'est juste que c'est comme d'essayer d'imprégner une odeur ou un rythme différent au roman dès le départ. Mais en termes d'écriture, c'est pas plus dur un que l'autre. C'est juste. J'imagine que pour un musicien, c'est comme faire un slow ou faire une pièce rythmée. C'est pas plus dur, c'est juste différent.
C'est juste une façon différente d'aborder ça. Mais encore une fois, et dis-moi si je me trompe, mais j'ai vraiment l'impression qu'un des thèmes récurrents, l'espèce de leitmotiv dans ton œuvre, c'est l'identité. En tout cas, moi, c'est ce qui me parle beaucoup, autant dans Koukoum, autant dans Joe Jagger. Il y a une question d'identité, la recherche, la définition de l'identité. Comment tu définirais ça, toi, Michel, l'identité?
Ouais, t'as raison, Jean-Simon. Mon éditrice, un jour, m'a dit, toi, Michel, a dit tout ce que t'écris, ça rapporte avec l'identité. Puis ça m'a frappé quand elle m'a dit ça parce que je m'en étais pas rendu compte. Puis c'est pas consciemment que j'ai fait ça. C'est je pense que ça tient au fait que c'est une chose qui, moi, personnellement, m'interpelle. Tu sais, étant Innu, grandi en ville, qui s'est toujours posé mille une questions sur c'est quoi la part autochtone, tu sais, qui reste dans toi quand oui, t'es né autochtone, mais t'es élevé en ville, avec des valeurs, des gens de la ville, etc. Puis qu'est-ce qui reste en toi? Donc, ça, je pense que quelque part, ça teinte mon écriture, puis les thèmes des livres que je choisis. Mais en même temps, je pense que c'est quelque chose qui est quand même positif, parce que chacun de mes personnages, quand ils se posent ce genre de questions-là, le cheminement pour trouver les réponses est peut-être difficile, mais ça mène toujours quelque part vers une certaine lumière ou vers quelque chose qui est plus porté vers l'espoir que le désespoir. Parce que c'est comme ça aussi, oui. C'est dans ma nature. Je suis pas quelqu'un de désespéré et où je suis quelqu'un qui est un éternel optimiste. Alors, ça, inévitablement, il va y avoir, même dans les romans où les fins peuvent, tu sais, Koukoum, ça finit pas gay.
Non.
Mais quelque part, il y a l'amour qu'Almanda ressent pour Thomas qui l'aide à passer au travers. Puis dans Joe Jagger, on est dans autre chose.
Oui, tout à fait. Et il y a l'héritage que ça laisse aussi. Puis cette question-là de racine, je la comprends très bien. Mon père est vietnamien, c'est un réfugié. Mm-hmm. Fait que toute ma vie, j'ai un peu réfléchi à qu'est-ce que je garde de ça. Est-ce que je veux garder quelque chose de ça alors qu'on m'a écœuré là-dessus? Toi, te rattacher, te réapproprier tes racines et nous, est-ce que tu as trouvé ça difficile comme processus?
Toi, quand tu dis on m'a écœuré là-dessus, ce que tu dis quand tu dis ça, c'est que dans le fond, tu sais, la différence a été quelque chose qui a comporté des difficultés.
Oui.
Passe par-dessus, etc. Mais ça a été, tu sais, ça affecte une cible de blague, etc. Moi, j'ai vécu ça aussi avec les Autochtones. C'était plus facile pour moi de le cacher que j'étais Autochtone parce que si j'en parle pas physiquement, les gens qui me connaissent savent que je suis Autochtone. OK, mm-hmm. Tu ressembles à un Autochtone, mais en même temps, les yeux clairs, je peux passer pour un blanc assez facilement. Tu sais, ça m'a donné ce qu'on appelle des fois la white pass, comme le personnage d'Elisabeth dans mon roman. Mais le fait est que, quelque part, ça laisse toujours une trace. Tu sais, et même si on passe par-dessus, même si on fait une vie et on s'organise, non. Il reste toujours quelque chose de ça. Tu sais, toi-même, tu te poses la question, ça prouve que quelque part, tu sais, ça laisse une trace. Et je pense que on est beaucoup de personnes comme ça au Québec. On est beaucoup de gens qui vivent ça à différents degrés.
Oui, je pense que c'est criant d'actualité ce que tu dis, ce que tu racontes dans tes romans aussi, d'autant plus avec ce qu'on apprend sur les peuples, les Premières Nations, avec l'histoire des pensionnats, tout ça. Tu dis que t'es un éternel optimiste. T'es-tu optimiste pour le futur des Premières Nations, le futur des membres des Premières Nations?
Oui, parce que je pense que les Québécois ont fait des gros progrès depuis une couple d'années, je dirais, depuis la mort de Joyce Echaquan. Ça a été un gros événement depuis la Commission Vérité et Réconciliation où ça a commencé tranquillement. Ouais. À mort de Joyce Echaquan, tu sais, moi, j'avais été le premier journaliste à jouer les extraits. Puis, tout le monde a joué ces extraits-là, évidemment. Puis, je me souviens qu'à un moment donné, tu sais, il y avait des médias qui ne diffusaient pas les paroles des infirmières. Parce que, par respect, dans le fond, pour la victime. Et, moi, mes patrons m'ont demandé, genre, devrais-tu, tu sais, pas jouer? Puis moi, j'ai dit, non. Ça fait longtemps que les Autochtones entendent ça. Il est temps que les Blancs l'entendent. Fait qu'on les a gardés. Tu sais, je pense que ça a été comme... Ça a fait bouger les choses. Moi, je pense aussi que le Québec et le Canada n'auront pas le choix. Je veux dire, j'arrive d'Allemagne, là, je suis en Allemagne, puis j'ai parlé avec beaucoup de journalistes allemands là-bas, à TV, à radio, écrit. J'ai fait plusieurs entrevues avec la France dans les dernières années, puis le nombre de personnes... Le journaliste qui me pose des questions, ces questions autochtones, puis qui parle de Trudeau, qui parle de M. Legault, puis qui parle des corps découverts dans les sites des anciens pensionnats dans l'Ouest, puis qui questionne le gouvernement, puis qui me disent que ça a changé leur vision du Canada maintenant. J'ai en Allemagne, le reporter me disait, nous, on a notre part d'histoire sombre, puis on le sait, mais on pensait pas que le Canada en avait une aussi, puis aussi sombre que ça. On parle de 700 corps d'enfants qui sont découverts, enterrés anonymement, puis après ça, un autre 300. Je veux dire, le reste du monde, là, ça les a frappés. Et donc, ils commencent à regarder le Canada de façon différente. Alors, on ne pourra pas, pendant des années, là, on ne s'occupait pas de ce que les Autochtones disaient, demandaient. C'est le gouvernement, quand tout le monde Couillard a fait le plan Nord, il n'y a pas de consulter les Inuits, pourtant, c'est sur notre territoire. c'est le plan Nord, on a un gros plan. Les gens, ah oui, il y a une mine d'uranium vraiment dans les monts Atish qui sont sacrés pour les Inuits. Il y a vraiment un projet. Faire ça, personne ne nous en a parlé. Mais je pense qu'aujourd'hui, le Canada, il ne pourra pas se permettre de fonctionner comme ça. Puis, parce que sinon, ben, c'est le regard du monde qui change. Puis ça, pour un pays, c'est quelque chose que tôt ou tard, qui fait une pression. Donc, les yeux du monde sont regardent le Canada d'une manière différente. Alors, je pense qu'il y a comme une obligation de trouver des solutions.
En même temps, puis là, je vais citer un de tes personnages dans Joe Jagay, Géronimo, qui dit à un moment donné, quand il parle du mode de vie des Autochtones qui a changé, il dit, le monde a changé. C'est un peu ce que t'exprimes. Le monde change, le regard du monde change. Le monde a changé, mais les humains restent les mêmes. C'est ça qui, peut-être un point de vue plus cynique de ma part, là, mais c'est ça qui me fait peur un peu, c'est que le monde change, mais les gens restent les mêmes. Est-ce que c'est pas être un peu condamné à rester étiqueté par sa différence, à rester un peu marqué au fer rouge?
Je pense que, de toute façon, la différence, on veut pas la perdre, d'une certaine manière. La différence, elle reste que, elle est importante. Et quand les gens restent les mêmes, c'est vrai. Si tu regardes l'humanité, depuis 2000 ans, on a fait des progrès technologiques de façon incroyable, tu sais. On est parti du cheval à aller à la fusée.
Oui.
Mais au plan de la pensée, on pense encore comme Aristote puis les Grecs, puis on a encore les mêmes schèmes de pensée qu'on avait il y a 2000 ans. Donc l'humain lui-même évolue pas au même rythme que l'environnement que lui fait évoluer autour de lui. Fait qu'on reste toujours les mêmes gens, puis on reste des humains. Mais je pense quand même que les sociétés, elles, finissent par évoluer dans le bon sens ou dans le mauvais sens.
Mm-hmm.
Je veux dire, et ça, c'est des mouvements sociaux qui font ça. Tu sais, si tu regardes aux États-Unis actuellement, la situation, l'instabilité, puis la radicalisation, et à gauche et à droite, les partisans de Trump qui chicanent avec les autres républicains, puis à gauche, l'aile plus radicale, démocrate, ouais, qui chicanent avec... Il y a comme une radicalisation là-bas qui correspond à quoi? Qui correspond à des mouvements de société. Ça pousse les États-Unis dans une direction qu'on n'aurait pas pensé. Alors, c'est imprévisible, c'est pas nécessairement toujours dans le sens qu'on veut, mais les sociétés changent. Alors moi, j'ai confiance quand même qu'au Québec, la société va pousser puis changer vers quelque chose de plus fair, plus juste, notamment pour les peuples autochtones. Tu sais, moi, j'ai la cousine de ma mère qui était passionnée de Fort-Georges, puis elle est disparue, tu sais, comme les enfants de Co-SS, on n'a jamais su. Ils ont dit qu'elle était malade, ils l'ont envoyé à Montréal, elle était au pensionnat qui était à la Belgique, puis l'ont envoyé à Montréal dans un hôpital, supposément, elle n'était jamais revue, on n'a jamais su où être enterrée, puis à un moment donné, la famille, sa sœur a découvert il y a 7-8 ans qu'elle était enterrée dans une fosse commune à Ganawagé, au cimetière. Puis la famille était descendue cet été dans une cérémonie à Ganawagé, puis j'étais avec eux autres là-bas. Puis après, les gens sont venus chez nous, on avait le droit d'être dehors, c'est-à-dire qu'on avait fait un barbecue dehors avec la famille, puis tu sais, j'avais une fille qui est de 40 ans, qui, tu sais, qui est la fille de la cousine de ma mère, qui me disait, moi, ma mère n'a pas voulu m'apprendre les Nouaïmoun parce qu'elle me dit, je veux pas t'apprendre la langue qui m'a causé autant de problèmes dans la vie. Puis que toi, tu vives ça. Tu sais, c'est une femme de 40 ans qui me dit ça.
Ouais.
Alors, tu sais, il y a des blessures, il y a des affaires qui sont là. Puis ça, ben, ça laisse des cicatrices. Mais je pense, moi, quand même que les choses au Québec, en tout cas, je sens qu'il y a quelque chose. Chez la majorité des gens, pas tout le monde, tu sais,
mm-hmm,
mais chez la majorité des gens. Moi, j'ai à tous les jours, j'ai des courriels de gens qui ont lu Cocom, là, puis qui me disent je le savais pas, puis merci, maintenant je vois les choses autrement. Alors, des fois, c'est juste parce qu'on ne sait pas.
C'est ça, puis c'est de rendre ça visible. L'affaire Josh Echaquan, définitivement, a joué là-dessus d'un côté dramatique. Même chose avec les corps retrouvés sur les terrains des pensionnats. Mais je pense que ça commence plus jeune. Je le dis souvent, mais moi, ce que je retiens de mon éducation concernant les Premières Nations, c'est Iroquoien sédentaire et Algonquien nomade. That's all, c'est ça qu'on apprenait. Là. D'après toi... Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour dans le système d'éducation pour faire en sorte que rapidement les jeunes soient conscients de cette réalité-là puis en apprennent davantage sur ben en fait nos voisins et des gens qu'on côtoie puis des gens qui partagent notre territoire.
Ben tu sais, on apprend l'histoire du Canada là, à l'école. On est en France puis avec Jacques Cartier là les Français débarquent ici puis l'histoire du Canada commence en 1534. Mais c'est parce que ça fait 10 000 ans qu'il y a du monde qui vit sur le territoire. Les Français, eux autres, par exemple, ils sont pas descendants des Gaulois. Là. Ils sont descendants des Francs qui sont arrivés au Moyen-Âge avec l'invasion des barbares qui arrivaient d'Allemagne. Mais est-ce que les Francs étudient l'histoire à partir des Francs puis de l'arrivée de Charles Martel? Disent non. Ils s'intéressent à l'histoire des gens qui ont vécu sur leur territoire depuis toujours. Eux autres, ici, on s'intéresse à l'histoire quand les Européens arrivent. Puis c'est... On va le dire, moi j'aime pas tellement utiliser le terme, mais quand les colons européens arrivent, c'est l'histoire coloniale qui est enseignée, c'est celle du Canada. Alors, moi je pense qu'il faut commencer à... C'est-à-dire, ils ont fait une découverte archéologique, je pense l'année passée, à Machouillas, d'où ma famille vient.
Mm-hmm.
Puis là, ils ont trouvé des outils, des endroits où les gens ont fait la cuisine, etc., qui datent de 5000 ans, à Machouillas, sur le bord du lac Saint-Jean. Donc, ça fait au moins 5000 ans que là même où est-ce qu'on vit, il y a des gens qui vivent. Tu penses à toute l'histoire qu'il y a là?
Incroyable.
Mais on ne s'intéresse pas à ça. Alors, je comprends que c'est plus difficile parce que ce n'était pas des sociétés qui écrivaient. Ils n'ont pas laissé des pyramides puis des temples en haut d'une montagne comme les Grecs. Mais il y a de l'archéologie à faire, il y a des choses à faire, il y a à fouiller. Puis ça, c'est quelque chose qu'on va devoir faire. Puis après ça, il faut commencer à enseigner ça aussi aux Autochtones. Puis encore là, les Autochtones, tu sais, on apprend un peu d'histoire quand on est jeune, mais après ça, ça arrête à un moment donné, là, quand la société évolue, qu'on n'entend plus parler.
Ouais.
Alors qu'il s'est passé bien des affaires. Alors, je pense que ça commence par le système scolaire, puis ça commence par raconter l'histoire de tous ceux qui ont habité sur ce continent-là. Tu sais, j'avais un reportage, j'ai vu un article la semaine passée, c'est dans Le Soleil.
Ouais.
Puis la chroniqueuse a critiqué le fait que Mary Simon parle pas français ou discours du trône correct, on peut discuter de ça, moi j'ai pas de problème avec ça. Mais ça, à un moment donné, elle dit, elle écrit quelque chose comme, en plus, elle a parlé en Inuktitut. Puis là, l'Inuktitut, c'est même pas une langue qui est parlée par la majorité des Autochtones. Puis de réduire le français à côté de l'Inuktitut, c'était comme réduire le français au plan de la diversité. Là, moi, j'ai répondu sur Twitter, je m'excuse, mais l'Inuktitut qui est parlé depuis 5000 ans au Québec, là, c'est pas une langue de la diversité. C'est une langue autochtone qui est là depuis au moins 4500 ans avant le français. Tu peux pas les mettre... Je dis pas que c'est mieux ou pire, c'est juste pas la même chose. Puis dans le fond, ce qu'elle disait, ça révélait son ignorance à elle. Maintenant, on mélange les affaires. Ben, c'est ce genre de choses-là, c'est faux.
Ouais.
Faut commencer avec les jeunes puis pour faire en sorte que quelque part, en vieillissant, les gens sont mieux informés. Puis à partir du moment où on est mieux informés, ben on est plus ouvert.
Et c'est ça qui
va faire. C'est l'ignorance qui est l'ennemi de toutes les civilisations.
Et je pense que c'est la meilleure phrase pour conclure ça. L'ignorance qui crée tellement de malentendus et de problèmes. Joe Jagger est disponible en librairie avec, évidemment, tous tes autres romans, tous tes autres recueils. Michel, ça a été un plaisir de te parler. Super agréable et intéressant.
Ouais, merci gentiment. Salut tout le monde à Québec.
Salut, à bientôt. Salut, Michel. Michel Jean. Auteur, chef d'antenne, on a couvert beaucoup de terrain dans cette entrevue-là. Qu'est-ce que vous en avez pensé? 25-226. Passez une excellente soirée et surtout, faites du bruit.